Ensemble sur
Calade.
Ensemble sur Calade, les meilleurs moments.
On part en Afrique et plus précisément à Cabadio, en Casamance, au Sénégal, puisqu'on reçoit tout de suite Benjamin Jaïr de l'association Perma Cabadio. Bonjour Benjamin.
Bonjour à tous.
Alors on vous recevait il y a quelques jours sur notre antenne pour présenter un petit peu Perma Cabadio, vos actions, ce que vous faites en règle générale, et aujourd'hui on va parler de justement d'une action très concrète qui vient d'aboutir. Alors avant toute chose, est-ce qu'on pourrait quand même revenir sur Perma Cabadio, qu'on se fasse une idée de l'association?
Oui, bien sûr, on peut faire un petit retour en arrière rapide sur une vingtaine d'années avec la création tout d'abord de l'association Il était une fois une rencontre à Villefranche, et puis au fil du temps, avec des besoins grandissants d'autonomie alimentaire, eh bien on est arrivé à travailler beaucoup avec les groupements de femmes sur le maraîchage, et on s'est rendu compte petit à petit du besoin de plus en plus grandissant d'autonomie alimentaire, avec beaucoup de jeunes qui partaient finalement, et un exode très fort. Et en rassemblant un petit peu les deux problématiques, on s'est retrouvé à créer Perma Cabadio, donc un lieu de formation pour les jeunes là-bas, et surtout un lieu qui peut leur permettre de retrouver une fierté en apprenant le maraîchage et la permaculture pour nourrir leur famille, donc de rester, donc de ne pas partir, ou de partir dans d'autres conditions, et donc du coup de se sentir utile, et puis d'être utile effectivement pour tout ce qui est souveraineté, autosuffisance, sécurité alimentaire. Voilà.
Il y a vraiment une valeur intrinsèque, je pense, à l'association, c'est le transfert de connaissances en tant que richesse, quoi, de savoir faire les choses, savoir être autonome, c'est une richesse que vous essayez de transmettre et de rendre accessible.
Oui, bien sûr, l'autonomie par le partage de compétences, c'est quelque chose de formidable. Pendant des décennies, on a assisté l'Afrique à coup de doses d'humanitaire, de grands projets, d'amener des hôpitaux, des choses, etc., sans qu'il y ait vraiment de besoins et de demandes. On fait la même chose aussi dans nos systèmes sociaux ici, je pense. Et du coup, on se retrouve à finalement ne pas apprendre au pêcheur à pêcher, mais à lui amener du poisson, quoi. Et donc, du coup, quand on veut justement faire l'inverse, eh bien, de réapprendre à cultiver la terre, de réapprendre à s'approprier toute la richesse d'un écosystème, eh bien, ça permet après une palette énorme, un éventail énorme d'autonomie et de possibles. Voilà, c'est un peu nos objectifs.
C'est, je ne sais plus où j'ai entendu ça, la connaissance, c'est une valeur qui ne se perd pas. Quand on donne de la connaissance à quelqu'un, on l'a toujours nous-mêmes, et lui, il a en plus, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des autres choses.
Oui, et puis ça résume bien ça, ce que vous venez de dire, la permaculture, puisque dans la philosophie même de la permaculture, qui n'est pas un dogme, qui n'est pas une religion, on parle vraiment de trois grands principes. Le respect de la terre, comme la terre mère, hein, il faut entendre un petit peu ça derrière, respecter la nature, respecter l'environnement, le respect de l'homme avec un grand H, donc respecter nos parents, respecter nos enfants, se respecter soi-même, et puis partager les ressources. Partager les ressources, ça veut bien dire que ce que l'on connaît, ce que l'on sait faire, ce que l'on a, ce qui nous appartient, bah, de le partager avec un autre, c'est de le faire fructifier, c'est de le faire vivre. Et donc du coup, voilà, ça, tout prend son sens aussi ici, et son bon sens, puisque la permaculture, c'est vraiment synonyme de bon sens.
Et donc ça, c'est l'association Perma Cabadio, le projet, les valeurs générales, on va dire. Et puis il y a des actions un peu plus ponctuelles comme ça qui ont lieu, et l'une d'elles vient d'aboutir. Et encore, est-ce que c'est vraiment un point final? Je suis pas sûr. Mais une ambulance est arrivée il y a quelques jours à Cabadio. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de cette histoire d'ambulance?
Oui, bien sûr. Donc voilà, une ambulance est arrivée mercredi dernier, donc à Cabadio. Et mardi, là, au dispensaire, elle a été remise avec les clés et le matériel qui était collecté aux sœurs du dispensaire Saint-Benoît, donc de Cabadio en Casamance. L'origine de ce projet, elle est toute simple, elle est très humaine, puisque j'ai emmené mon fils pour ses 10 ans à Cabadio en 2016, mon fils Pao. Et on s'est retrouvé un jour confronté à une délégation de papas qui venaient me voir, puisque sachant que j'étais là, ils avaient envie de me proposer, en tout cas me demander de l'aide sur un projet. Et là, ils nous ont expliqué, donc il y avait mon fils à mes côtés, ils nous ont expliqué qu'un des papas présents, qui s'est d'ailleurs mis à pleurer tout de suite, venait de perdre son enfant de 5 ans, parce qu'on n'avait pas pu le transporter à l'hôpital régional, faute de véhicule. La seule ambulance de la sous-région était occupée, et l'hôpital se trouvant à 125 km du village, bien du coup ça a rendu impossible le transfert, et l'enfant est décédé. Alors c'était assez émouvant, c'était assez dur et choquant même, on en a beaucoup reparlé avec mon fils ensuite. Et donc leur demande était toute simple, c'était d'obtenir si possible un véhicule d'urgence, une ambulance, voilà. Donc on a pris note de cette demande, comme on l'a fait systématiquement, et là moi je leur ai rajouté une petite démarche, c'est-à-dire de faire un courrier avec le comité de santé du village. Un comité de santé, c'est le dispensaire, la maternité rurale, le chef du village, les doyens, donc qui s'associent en comité de santé, et ils nous ont fait un courrier de demande, donc une demande officielle, pour que je puisse chercher une ambulance. Et quand je suis rentré en France, j'ai posté deux, trois lignes sur Facebook. Ouais. Et peu de temps après, eh bien, un ami à moi m'a dit « Tu sais, l'ambulancier de Fleury a mis une ambulance au rebut, là, il s'en sert plus depuis quelques années. On l'appelle, on va le voir. » Et ça s'est fait comme ça, on l'a appelé, on est allé le voir. Et entre-temps, j'avais même d'ailleurs eu plusieurs autres pistes. Et donc il nous a donné son ambulance avec le moteur pratiquement HS, mais voilà, c'était le deal. On avait un véhicule très bien entretenu, tout équipé aux couleurs d'une ambulance, avec tout le matériel nécessaire. On a même pu emmener les bouteilles d'oxygène, etc. Et du coup, ben, il a fallu juste trouver des fonds pour changer le moteur, la remettre en état, lui faire passer le contrôle technique et l'acheminer vers Cabadio.
Donc il y a une collecte de fonds qui s'est mise en place, mais finalement, à la base, trouver une ambulance, ça n'a pas eu l'air d'être si compliqué que ça.
Tout à fait, c'est assez incroyable, autant que ça puisse paraître, mais aujourd'hui, on met des ambulances à la casse, je pense, tous les jours, dans le sens où ce sont des véhicules qui font très rapidement beaucoup de kilomètres, parce qu'ils sont sur la route tout le temps. Ils ne doivent pas être trop vieux pour des raisons de sécurité et de normes. Alors ça, c'est un grand débat, hein, mais les normes, nos normes et les normes dans d'autres pays du monde ne sont pas tout à fait les mêmes. Nous, je pense qu'on a atteint une sorte de maximum de la norme. Ouais. Donc en tout cas, je pense que dès que comme on le dit souvent, dès que le cendrier est plein, on change de voiture, bah, c'est un peu le cas. Donc là, on change d'ambulance assez régulièrement. Ouais. Et donc, si on fait un appel comme ça, alors certains les vendent, et elles sont beaucoup, beaucoup prisées, les ambulances et les véhicules des pompiers aussi. Il y a un gros, gros, gros business qui se fait de revente de véhicules vers l'Europe de l'Est, qui a besoin de ce genre de véhicules. Et donc, il y a un achat-revente là qui est assez énorme. Ouais. J'ai été confronté à ça pendant la recherche, justement, de l'ambulance. On me disait, non, vous la donnez, c'est pas tout à fait possible. On essaie quand même d'en retirer quelque chose. Et puis, deux jours après, elle était déjà partie, quoi.
D'accord.
Donc voilà, on peut aujourd'hui facilement, avec une enveloppe, moi je peux vous faire un descriptif budgétaire aussi des besoins, c'est assez facile en tout cas de programmer un projet comme celui-ci.
Et donc vous nous l'avez dit, ça a quand même nécessité des réparations au niveau du moteur et des moyens, donc d'où la collecte de fonds. Ça a pris un certain temps de réunir les fonds, de mettre en place les réparations.
Oui, il y a eu déjà le temps de récupérer l'ambulance, le temps de faire des premières démarches administratives, de voir un petit peu où on mettait les pieds, comment on allait pouvoir l'emmener. Est-ce qu'avec moi, je suis allé rencontrer le consul du Sénégal à Lyon et mes amis de Casamance sont allés carrément au ministère de la Santé à Dakar. On a vu un peu l'ampleur des démarches administratives que ça représentait. Au départ, on voulait la faire descendre par la route. Mais les amis mécaniciens m'ont vraiment déconseillé de le faire, pas par rapport à la sécurité, etc., mais par rapport à l'ambulance en elle-même, qu'on allait vraiment fragiliser en lui faisant faire 5000 km de route entre le Maroc et la Mauritanie. Ouais. Et donc, du coup, on a mis un certain temps avant de démarrer vraiment une collecte. Et là, on a démarré avec Hello Asso, on a pu démarrer une campagne de pub, on a continué de réparer l'ambulance et on a commencé à collecter des fonds. Et le premier chèque qu'on a reçu vraiment, c'est un chèque des Amis de Casamance, une association de la Chapelle de Guinchay, qui nous a fait une dotation de 2000 euros. Qui nous a vraiment permis d'avancer et de démarrer les frais facilement.
Ouais, ça permet de bien mettre le pied à l'étrier pour
c'est
le coup.
Ça.
Et donc cette ambulance, elle est arrivée, je crois, chargée de matériel à Cabadio il y a quelques jours, non ?
Tout à fait. On a profité d'avoir une valise géante de plusieurs mètres cubes pour emmener différents matériels correspondant à trois projets. Un projet avec l'école d'équipement en matériel informatique, un projet avec le dispensaire qui a toujours été équipement en petit matériel médical et paramédical qu'ils ne peuvent plus trouver. On n'emmène pas de médicaments parce que c'est interdit aujourd'hui, il faut savoir que c'est interdit d'emmener des médicaments à cause de l'ordre des pharmaciens. Alors bien sûr, en disant ça, je n'ai rien contre les pharmaciens, mais l'ordre des pharmaciens a mis en place quelque chose il y a très peu de temps, là, 2 ou 3 ans, qui empêche les pharmaciens de donner des médicaments aux ONG. Tout simplement pour par souci de business, hein, faut être clair.
D'accord, c'est vraiment donc, une question économique.
Ah oui, complètement. Voilà, donc l'ordre des pharmaciens a verrouillé le système en légiférant le fait que si on se fait arrêter à une douane avec des médicaments, même avec des documents précisant que c'est pour un dispensaire ou une case de santé à l'autre bout du monde, et que tel pharmacien, justement, on a fait une collecte et on nous a donné ces médicaments, il y a des suites. Et on peut même faire de la prison dans le pays, puisque du coup, les États, africains notamment, et asiatiques, se sont vraiment emparés de ça. Et donc, il y a vraiment, ça devient du trafic de médicaments, en fait. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus dangereux. Se faire arrêter pour trafic de médicaments à une frontière, c'est un risque énorme. Et donc, cet ordre des pharmaciens a complètement verrouillé la possibilité pour les petits dispensaires de donner à leur tour les médicaments qu'ils recevaient de collecte. Donc maintenant, ils sont obligés de faire acheter et d'acheter des médicaments aux pharmacies des pays en voie de développement. Alors, ce qui peut être bien pour le développement de la pharmacie du coin, mais en tout cas pour les populations qui vivent en général sans argent, ça devient compliqué d'acquérir des médicaments. Ce qui n'est pas un mal en soi, parce que les médicaments, c'est une chose, et nous, on prône plutôt l'aspect plante médicinale. Mmh. Et donc, il y a un vrai retour aux plantes médicinales. Voilà.
Du coup, ça entraîne un retour à la médecine traditionnelle.
Bien sûr, le plus souvent possible. Ouais. Donc, en tout cas, pour revenir à l'ambulance, on a effectivement collecté pas mal de matériel. De compresses, de petits matériels spécifiques, des bouteilles d'oxygène, tout un tas de matériel d'hôpital, donc c'est-à-dire vraiment le matériel un petit peu de base pour soigner, pour stériliser, des seringues et tout un tas de choses comme ça. Donc ça, c'était assez super. Et la troisième collecte qu'on a fait, elle était au profit de Perma Cabadio, le centre de formation, avec des panneaux solaires, du petit équipement de menuiserie, une pompe à eau, et puis des tenues de travail. Voilà.
D'accord, donc plein d'outils pour toutes sortes de tâches. Et alors, comment a été, est-ce que vous avez eu des retours sur l'accueil de l'ambulance ? Comment ça s'est déroulé ?
Oui, là, c'est assez formidable. Les nouvelles technologies nous ont aidés, puisqu'on a pu faire des directs un petit peu ensemble. Il y a eu, donc, l'ambulance est partie chez le sous-préfet qui a ouvert la frontière entre la Gambie et le Sénégal pour ce seul véhicule, alors que la frontière est toujours fermée à cause du coronavirus. Et puis il a reçu donc l'ambulance. Après, il y a eu le président de la communauté de communes, donc là-bas, qui équivaut au maire, qui a reçu aussi l'ambulance. Tout le monde a reçu. Il y a eu une grande réunion de village pour justement recevoir l'ambulance et montrer tout le matériel pour éviter les jalousies, pour éviter les ragots, etc. Donc voilà, tout a été étalé sur la place du village. On essaye c'est la plus grande transparence là-bas tout le temps. Mais c'est génial, ça évite les conflits. D'accord. Donc voilà, l'ambulance a fait le tour de plein d'endroits. On a des photos, des témoignages, des vidéos, des photos avec les clubs de foot, les enfants. Ouais, c'est assez magnifique.
Et alors, comment elle va fonctionner, cette ambulance, à partir de maintenant? Est-ce que vous savez, j'imagine que déjà ça a dû être compliqué administrativement. Vous nous avez expliqué déjà d'avoir dû passer par des ministres, des ambassades et plein de choses. Et alors, comment elle va fonctionner aujourd'hui?
Alors l'ambulance maintenant, donc elle est reconnue, elle est connue et reconnue sur le territoire casamançais, donc par la sous-préfecture, les gendarmes, etc. C'est une ambulance, faut savoir, qui va rouler sans plaque d'immatriculation, parce que justement ça fait partie des arrangements pour éviter de passer par le ministère de la Santé du Sénégal du Nord. On est passé par la Gambie, on est arrivé en Gambie en bateau. Le pays voisin, et on a dédouané l'ambulance en Gambie avec l'accord du sous-préfet de Casamance. Voilà, par un petit chemin comme ça. Là, la suite, c'est la deuxième phase du projet. Alors, pour finir aussi, il y a trois chauffeurs qui ont été sollicités donc par le village, trois personnes qui savent conduire et en général qui sont des transporteurs de marchandises, qui sont donc sollicités pour conduire l'ambulance. Et qui donc ont un numéro de mobile et qui sont appelés quand il y a quelqu'un à évacuer. Voilà. Donc ça, c'est le principe des chauffeurs. Et la suite maintenant, ça va être de former, continuer à former les soignants là-bas aux urgences et en tout cas au transport de personnes, puisque c'est un métier à part entière. Il faut accompagner, il faut qu'il y ait un personnel médical, il faut qu'il y ait un soignant qui accompagne quand l'ambulance se déplace. Et ça, tout ça, ils n'ont pas trop l'habitude. Ils l'ont fait il y a quelques années parce qu'ils avaient eu aussi une petite ambulance. Donc voilà, donc ça, c'est la prochaine étape. Donc j'ai pas mal d'amis ambulanciers et d'autres gens qui ont des petits diplômes dans ce domaine, qui vont participer aux prochaines formations du personnel.
Très bien. Benjamin Jaïr, je me suis permis de prendre un petit peu de retard sur notre programme de l'émission du jour parce que je trouve ce sujet passionnant. Quelque chose de concret, un outil qui va sauver des vies très concrètement, qui est arrivé aujourd'hui à Cabadio, en Casamance, au Sénégal. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. On souhaite une bonne continuation à Perma Cabadio et puis beaucoup de belles actions comme celle-ci.
Merci, et puis n'hésitez pas, si vous entendez autour de vous une ambulance libre, il faut m'appeler, voilà.
D'accord, parce que le projet peut se répéter, effectivement.
De partout, il y a besoin d'ambulances, et avec 6 000 euros, on envoie une ambulance à l'autre bout du monde, voilà. Ça vaut même pas 4 pneus neufs pour un SUV tout neuf, voilà.
Ouais. Et puis, derrière ce projet, il y a aussi l'idée que, pour nous, occidentaux, une ambulance, ça peut être une évidence. On passe un coup de fil et un ambulancier va nous chercher.
Oui.
Et ça fait réfléchir de voir toute l'énergie qui doit être mise en place pour que ce soit possible à l'autre bout du monde, où c'est loin d'être une évidence.
Tout à fait.
Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Benjamin Jaïr, et encore une fois, très bonne continuation.
Merci à vous, au plaisir. Au revoir.
Vous écoutez le meilleur de
Ensemble sur Calade.